Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La France attend peut-être des mesures de restriction. La Grande-Bretagne prépare, elle, son retour à la normale. Dimanche, la ville de Londres n'a affiché aucune victime du Covid, une première depuis 6 mois, alors qu'en France, les hôpitaux sont arrivés à saturation, en particulier en Ile-de-France. Dans ce pays le plus endeuillé d'Europe, le Premier ministre a changé totalement de stratégie sanitaire et affiche aujourd'hui des courbes épidémiologiques à faire pâlir la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Après des mois de confinement strict et une campagne de vaccination menée tambour battant, hier les Britanniques ont commencé à tourner le dos, stay at home et embrayent sur un agenda de déconfinement avec une levée totale des restrictions prévue au 21 juin. Alors faut-il parler d'un modèle anglais au-delà, en tout cas sur ce qui concerne le contrôle de l'épidémie, peut-on s'en inspirer, Boris Johnson, si critiqué pour le nombre de morts, je le disais, c'est un record en Europe. Peut-il espérer tirer son épingle du jeu Covid ? Londres libérée et nous ? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Avec nous ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, chroniqueur à France Inter. Avec nous également en direct de Londres, Tristan de Bourbon-Parme, vous êtes journaliste correspondant à Londres. Je rappelle votre livre, Boris Johnson, un Européen contrarié aux éditions Françoise Bourin. Enfin, Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la Fondation Alzheimer et vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va prendre naturellement, j'ai envie de dire, la direction de Londres. Zéro mort à Londres dimanche. Est-ce qu'on respire de nouveau en Grande-Bretagne ? Tristan de Bourbon-Parme.
Oui, je suis allé me promener aujourd'hui dans Londres, qui était vide depuis des mois. C'est-à-dire que quand on se promenait sur Trafalgar Square ou devant Big Ben, les rues étaient absolument vides. Pas de touristes, pas de londoniens, à part quelques voitures épisodiques. Aujourd'hui, dans les parcs de Londres, les gens sont réapparus. En plus, il fait 23 degrés aujourd'hui à Londres, donc c'est un temps formidable. Bermuda, débardeur, short, tout le monde était dans les parcs pour en profiter, mais de façon assez responsable, les gens étaient quand même écartés. Mais c'est un peu un retour à la vie, et tous les gens que j'ai interrogés m'ont dit « ça y est ». Enfin, on respire, c'est assez génial.
C'est le retour des jours heureux, pour paraphraser une phrase du président de la République ici en France. Mais comment est le moral du pays ? Je le disais, c'est important de le rappeler, parce qu'on va beaucoup parler de la réussite du modèle britannique concernant la maîtrise de l'épidémie. Enfin, c'est un pays endeuillé, 126 000 morts, pays le plus endeuillé d'Europe, je le disais. Au moment d'ouvrir un petit peu les portes, est-ce que c'est un pays qui est encore sonné ?
Oui, parce que un nombre de morts aussi énorme, ça forcément les gens sont encore marqués par ça. Tout le monde connaît des gens qui sont décédés du Covid, des proches, des gens de la famille éloignée, des gens au travail. Tout le monde en a entendu parler, mais malgré tout, ce qui reste aujourd'hui dans l'esprit des gens, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, le programme de vaccination, c'est la stratégie de vaccination. Ouais. Sur laquelle Boris Johnson met l'accent.
Philippe Amouyel, pardon, excusez-moi. Philippe Amouyel, où en est précisément l'épidémie dans le pays ? On parle de ce chiffre qui nous a tous heurtés, forcément, et les situations sont tellement différentes à la fois en France et en Grande-Bretagne. Zéro mort à Londres, ça ne s'était pas produit depuis des mois. Mais si on fait deux pas en arrière, comment se comporte l'épidémie en Grande-Bretagne ?
En Grande-Bretagne, l'épidémie donc, est en train de se calmer, mais je vais juste prendre un exemple. Le nombre de cas positifs, vous savez, ces chiffres qui sont distillés tous les jours par Santé publique France, nous on est aux alentours de 40 000, qui traduit le nombre des contaminations. Les Anglais, au 29 mars, sont à 4 654 cas, nouveaux cas positifs sur le Royaume-Uni. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, ce qu'avait décidé le Conseil scientifique et le Président de la République, c'est qu'on ne sortirait de confinement en décembre qu'à 5 000 cas. Ils ont atteint ces 5 000 cas, donc ils sont sur une tendance basse de circulation du virus. Et ils pourraient même, s'ils le voulaient, mais je ne suis pas sûr qu'ils le feront, tenter une stratégie zéro Covid, là aussi en Grande-Bretagne.
Je voudrais, Anne-Elisabeth Moutet, vous montrer ces deux unes. Celle de Libération, ce matin, il attend quoi, Emmanuel Macron, pour reconfiner ? Et celle du Daily Mail, what are we waiting for ? Eux, ils veulent ouvrir. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même situation. Il y a une impatience des Britanniques à retrouver une vie normale.
Il y a une impatience de tout le monde. Il y a une impatience des Français à voir des solutions fermes prises au lieu d'attendre pour des raisons plus compliquées de triangulation politique. Et il y a une attitude claire des Anglais qui n'ont pas aimé le confinement, qui se sont rebellés contre le confinement plus tôt d'ailleurs que les Français. Les Français ont été finalement extrêmement dociles. Mais qui en même temps, à partir du moment où ils ont vu qu'il y avait une politique claire et puis cette espèce de course incroyable qui a mobilisé tout le pays de manière exceptionnelle pour la vaccination, ça a fait remonter le moral des gens. Et le moral des gens, c'est vraiment beaucoup de choses. Le ressenti, c'est la réalité. Et donc, maintenant, ils disent, bah bon, rouvrons, il fait beau, c'est le printemps, et ça fait un an qu'on souffre, on en a marre. Mais je dirais que l'immense différence, c'est, premièrement, il y a un calendrier, vous en avez parlé, il y a un calendrier extrêmement précis sur quand on rouvre les établissements publics, quand on rouvre les magasins, quand est-ce qu'on rouvre les pubs. Il y a des gens qui ont réservé dans leur pub déjà une place au comptoir.
Boris Johnson, il a réservé, il dit « je vais pouvoir aller dans la rue et prudemment et incontestablement, je vais boire une pinte de bière au pub ».
Eh bien, c'est la différence entre la relation entre les hommes politiques britanniques et la population, puisqu'il n'y avait pas que Boris Johnson qui faisait ça, mais il y a une espèce de l'idée que tout le monde a vécu ça ensemble. Il y a eu un moment où tout le monde s'est précipité pour. Il y a eu une adhésion nationale. On a bien vu que l'Écosse, qui est en train de trouver tout ce qu'elle peut pour s'opposer à Boris Johnson, a fait la campagne de vaccination dans les clous et aussi rapidement que possible. Et il y a une espèce d'union nationale qui s'est créée là-dessus. Ça change beaucoup de choses. C'est la chose qu'en France, j'ai l'impression, nous ne sommes pas capables de faire. On est en train de récriminer, pour des bonnes raisons, les trois quarts du temps, et parfois parce que le français râle par définition. Mais ça
L'anglais
change.
Ne râle pas.
Ah, c'est pas pareil. Quand des Anglais s'installent en France, et à cause du Brexit, j'en connais plein, ils disent, mais tu sais, ensuite, il faut que tu aies un diplôme spécial pour te plaindre, parce que chez les Français, il faut savoir le faire dans les clous. Mais non, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, une des grandes expressions dans les pubs et ailleurs, dans les bureaux, c'est « mustn't grumble », il faut pas râler. Parce Il y a un vieux stoïcisme chez les Anglais qui est toujours là. La société a beaucoup changé depuis 40 ans, mais néanmoins. Et se plaindre pour tout. Et en fait, en France, on se plaint pour ne pas être attrapé par je ne sais pas qui, quelqu'un qui voudrait vous guillotiner ou autre chose. C'est une défense contre l'extérieur. On se plaint pour être trouver des camarades et que personne ne vous envie. Et être envié en France, c'est une chose qui vous fait du mal. En Grande-Bretagne, ça dérange personne.
Dominique, sur cette lecture de la différence, si on avait fait cette émission il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on aurait dit en France, c'est formidable, la situation est. Les écoles sont ouvertes. Alors qu'en Grande-Bretagne, c'était un confinement extrêmement strict. D'ailleurs, on les voyait, les reportages à l'époque des Britanniques qui disaient mes enfants ne vont pas à l'école depuis des mois.
Non, mais c'est un sursaut. La nation britannique, c'est. A réalisé un sursaut incroyable parce que la situation était dramatique. C'est-à-dire qu'on a les deux choses à la fois. On a une situation qui a été dramatique et on voit le nombre de morts. Alors, il y a 126 000. Le Guardian a fait ses propres calculs. Il annonce 150 000 morts. Et sur son site, aujourd'hui, on trouve une confirmation de l'Office statistique. Peu importe.
C'est beaucoup plus que nous. Hein.
C'est beaucoup plus que nous. 94 000 en France. Alors, on ne va pas faire ce palmarès qui est un peu, qui est difficile, qui est macabre, etc. Mais 126 000 à 150 000 de l'autre côté de la Manche et nettement moins ici. Et il y a une sorte de réveil, peut-être de fierté nationale aussi, sur la vaccination. Et politiquement ou géopolitiquement, le contraste entre le vieux continent, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, qui rament sur la vaccination, ça progresse, on va en reparler, ça progresse quand même, ça va plus vite. Mais c'est pas terrible et la comparaison avec le Royaume-Uni est énorme. Je vous raconte juste une anecdote. Il y a quelques jours, le Bild, qui est un journal populaire allemand, a titré en énorme « Nous vous envions les Anglais ».
C'est ça.
Les Anglais, le Sun, le lendemain, a fait une « Nous ne vous envions pas », avec une tête d'Angela Merkel toute sombre et une tête de Boris Johnson qu'on imagine assez hilar parce qu'il est hilar physiquement.
Ça, c'est une autre revanche, celle du Brexit, et on va en reparler dans un instant.
Et c'est vrai, évidemment, qu'il y a une sorte, je ne sais pas si c'est une humiliation pour le continent, mais en tout cas, c'est une publicité vivante pour le Brexit.
Philippe Amouyel, est-ce qu'on est en train de vivre, là on parle pour le coup de l'épidémie, est-ce qu'on est en train de vivre en France ce qu'ont vécu les Britanniques quand ils étaient au plus fort de la crise ?
Oui, parce qu'en fait, la situation qu'on décrit actuellement très positive, elle date en fait de la fin du mois de décembre, du 22 décembre. Rappelez-vous quand ils ont décidé, face à la poussée du variant britannique, de rentrer en confinement dur. Donc c'est grâce à ça qu'il y a eu ce renouveau et cette dynamique, en particulier sur la vaccination et les choix stratégiques qu'ils ont fait dans ce domaine. Mais il faut quand même analyser toute la période antérieure quand Boris Johnson a dit que finalement, il fallait peut-être avoir une immunité collective. Ouais. Et c'est pour ça probablement qu'il y a eu ces accumulations de décès, entre autres choses.
Mais donc, sur le nombre de contaminations par jour, est-ce qu'on est à peu près au même niveau ?
Alors, on n'est pas au pic. Au pic, ils étaient aux alentours du 9 janvier à 60 000 contaminations par jour. Mais là, on est à 40 000, ce qui est énorme en termes de contamination. Eux étaient à 60 000 au plus haut du pic le 9 janvier.
En tout cas, quand la France s'interroge sur un nouveau tour de vis, on l'a dit, la Grande-Bretagne entame la première phase de son déconfinement avec la reprise des sports en plein air, par exemple, ou des sorties à 6. Un chiffre qui illustre l'embellie dans le pays le plus endeuillé d'Europe. On le disait un dimanche, le bilan pour la ville de Londres, 0 mort. Magali Lacrosse, Christophe Roquet.
Ils l'ont appelé Happy Monday, le lundi heureux. C'était hier en Angleterre. Une bouffée d'air entre amis, en famille, autorisés à se retrouver dehors. Une nouvelle étape de déconfinement, ça valait bien un bon bain, même un peu frais.
Vous êtes dehors, vous faites de l'exercice. C'est tellement bon pour votre santé mentale. Ça m'a terriblement manqué. C'est génial d'être de retour.
Après avoir rouvert les écoles le 8 mars, les contaminations baissent. 5 000 dans tout le pays. Et dans la ville de Londres, aucun mort du Covid-19 ce dimanche. Alors, Boris Johnson assouplit encore un peu les restrictions sanitaires, tout en restant prudent.
Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier d'une certaine détente aujourd'hui. C'est important, c'est précieux. Je sais que c'est apprécié par les gens. Mais il est également très important de souligner que nous devons continuer à être prudents.
L'Angleterre déconfine à petits pas mais vaccine massivement. Hier, 30 millions de Britanniques avaient au moins reçu une première dose d'AstraZeneca ou de Pfizer, soit 60% de la population adulte. Alors, le calendrier tracé par l'exécutif suit son cours. Le 12 avril, les magasins non essentiels rouvriront, les pubs en terrasse, les coiffeurs et les musées. Le Premier ministre à la chevelure imposante a choisi ses priorités.
J'ai besoin d'une coupe de cheveux, oui. J'ai besoin de me faire couper les cheveux.
Vous le ferez le 12 avril ?
J'irai au pub d'abord.
Le 17 mai, les cinémas, l'hôtellerie et les restaurants en intérieur rouvriront et le 21 juin, la fin des restrictions sociales pourrait être prononcée. Et pourtant, l'année dernière, le Royaume-Uni était le mauvais élève pour sa gestion de crise de la pandémie. Début mars 2020, Boris Johnson dévoile son plan de lutte sanitaire avec une certaine décontraction affichée et revendiquée quant aux mesures de distanciation sociale.
Je serre les mains tout le temps. Hier soir, j'étais à l'hôpital, je pense qu'il y avait quelques malades du Covid. J'ai serré les mains de tout le monde, vous serez content de le savoir. Et je vais continuer à serrer les mains, je crois que c'est important de le faire. Vous savez, les gens ont leur propre avis.
À l'époque, le mot d'ordre britannique semblait un peu léger.
Lavez-vous les mains.
Le plus important, c'est que vous vous laviez les mains.
Quelques jours plus tard, le Premier ministre change de ton.
Je dois être clair avec vous, nous allons être très clairs. Nous vivons la pire crise sanitaire de notre génération.
Diagnostiqué positif et même hospitalisé quelques jours plus tard, Boris Johnson saluera les soignants qui lui ont sauvé la vie, dira-t-il. Après deux confinements, la mauvaise nouvelle est annoncée par le ministre de la Santé.
Nous avons identifié un nouveau variant du coronavirus qui peut être associé à une contamination plus rapide dans le sud-est de l'Angleterre.
Un troisième confinement strict est annoncé début janvier 2021. Mais pendant ce temps, l'Angleterre a validé les vaccins Pfizer et AstraZeneca plus tôt que ses voisins européens. La vaccination est lancée le 4 janvier. L'Angleterre reprend peu à peu le chemin de la liberté. Mais les polémiques sur l'efficacité du vaccin suédo-britannique et les retards sur sa livraison en Europe irritent les 27. Alors, AstraZeneca a discrètement changé son nom. Appelez-le maintenant Vaxzevria.
Je ne sais pas si le changement de nom suffira à redonner confiance dans ce vaccin. En tout cas, c'est une tentative de communication. Cette question, les Britanniques attribuent-ils tout le mérite de cette réussite à Boris Johnson ? Anne-Elisabeth Moutet.
De la campagne de vaccination, très probablement. Parce qu'il y a un effort et une espèce d'effet d'entraînement de Boris Johnson. Là, il est à son meilleur. Et on l'a vu à son pire au début, quand il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Et puis, à partir du moment où il s'est rendu compte que la solution de Imperial College, qui était l'immunité de groupe, aussi, qu'on avait pratiqué aussi en Suède, ça ne marchait pas. À ce moment-là, d'abord, il a fait un effort. Mais dès que la Grande-Bretagne avait appris qu'il y avait des possibilités de vaccins, alors qu'on n'en parlait pas encore tellement dans les nouvelles, immédiatement, la Grande-Bretagne aussi s'est mise à acheter des grosses doses de vaccins. C'est-à-dire que dès le départ, ils se sont dit la solution, ce sont les vaccins. Alors, il y a des contacts, naturellement, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, parce que c'est tout de même les États-Unis qui font la première poussée. C'est les 10 milliards de dollars de ce qu'on appelle warp speed, la vitesse de la lumière, au-delà de la lumière, pour le programme de Pfizer, qui entraîne les autres. Et il y a une course aux vaccins scientifiques dont on ne parle pas trop. Et il y a une course aux achats qui, elle, est complètement différente suivant la façon dont c'est fait. Les choix britanniques et le choix d'achat de vaccins de Boris Johnson est vraiment admiré. Le fait qu'on a inventé tout, on a vacciné des gens dans des églises, on a vacciné des gens
dans
des cafés.
Ça efface le reste, Anne-Elisabeth Moutet, ça efface le nombre record en Europe du nombre de victimes du Covid.
Je dirais que rien n'efface les deuils, mais que les Britanniques vont tous vous dire qu'il vaut mieux s'être planté au début et réussir à la fin que l'inverse.
Il s'est excusé.
Il s'est excusé plein de fois. Il n'a aucun problème pour s'excuser. Un Anglais dit sorry quand quelqu'un veut lui marcher sur le pied. En plus, ça se fait de s'excuser en Grande-Bretagne. Mais il a aussi dit, on a fait ça, ça ne marche pas, on va faire quelque chose qui marche d'autre. Mm-hmm. Et nous, on nous a expliqué que jamais on avait, par exemple, raconté des craques sur les masques. Je ne pense pas que les gens, dans un sens comme dans l'autre, oublient.
Tristan de Bourbon-Parme, sur cet aspect politique et sur la façon dont Boris Johnson, au fond, a réussi à retomber sur ses pattes après un début de gestion de crise reconnu collectivement et compris d'abord et à commencer par la Grande-Bretagne comme un échec.
Absolument, mais justement ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Boris Johnson est perçu comme un clown à l'étranger. Alors comme je l'explique dans mon livre, ce n'est pas un clown, ce n'est qu'une façade et que les gens ont du mal à percevoir. Et dans cette crise actuelle, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a perçu le Boris Johnson nonchalant, donc qui se promenait à l'hôpital en serrant les mains de tout le monde. Et c'est quelqu'un qui apprend. Tout au long de sa carrière, il a eu énormément d'échecs, que ce soit les différentes élections. À chaque fois, il apprend et il progresse. Et là, cette crise, c'est vraiment l'exemple. Il a eu un échec catastrophique au début, il a appris et il s'est rendu compte effectivement que la vaccination, c'était le moyen de sauver le pays et de rattraper sa carrière lui-même. Et on le voit bien aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec vous, les gens attribuent ce succès à Boris Johnson et à sa capacité à s'excuser, à s'être remis en cause et à avoir remis le pays sur les bons rails.
Ça veut dire qu'il sort plus fort à l'issue de cette crise, si tant est que cette crise soit finie, on en dira un mot avec Philippe Amoyal, concernant naturellement la Grande-Bretagne, il sort plus fort qu'avant la crise. Vous iriez jusque-là, Tristan de Bourbon-Parme ?
Oui, parce qu'il s'est excusé, il a fait des erreurs, il s'est remis en cause. Les gens acceptent ça. Enfin, quelqu'un qui n'admet jamais ses erreurs et qui, comme par exemple de nombreux dirigeants européens qui disent « on ne s'est jamais trompé, on n'a jamais eu de problème », les gens ne sont pas idiots. Les gens sont humains, ils acceptent l'erreur. Boris Johnson l'a accepté. Et aujourd'hui, les gens, effectivement, disent « il a fait des erreurs avant, il y a eu énormément de morts, mais l'avenir fait que le pays va sortir de la crise avant les autres pays en Europe, probablement. » Et ça, les gens l'acceptent. Et puis surtout, il valait mieux être confiné pendant l'hiver, où il fait 0 degré, que pendant l'été, lorsqu'il fait 20 ou 23.
Je confirme. Dominique Seux.
Oui, c'est-à-dire qu'il a pris... Boris Johnson a fait trois choix stratégiques. Le premier, c'est un choix national, nationaliste. Il faut savoir que quand Oxford, l'université d'Oxford, est venue voir le gouvernement en disant « nous avons un vaccin », Oxford était en train de négocier avec une firme américaine, Merck. Boris Johnson, son gouvernement, ont dit « Non, 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 vous négociez avec AstraZeneca parce que c'est britannique et donc c'est chez nous que ça va se passer. » Ça, c'est un choix fort quand même. Et c'est un choix dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est déterminant pour la suite. Le second choix, c'est celui, évidemment, du pragmatisme le plus total. Le « quoi qu'il en coûte » sur les vaccins, il a été appliqué là-bas. À la fois pour dire « on met autant d'argent sur la table qu'il le faut parce que de toute façon, les vaccins, quel que soit leur prix, coûteront moins cher que la pandémie. » Et plus subtilement, ils ont accepté que l'État britannique prenne en charge les risques en cas de problème de vaccination, etc. Alors qu'il y a eu des négociations entre Bruxelles et laboratoires qui ont été infinies. Ils ont perdu, Bruxelles a perdu 2-3 mois à négocier sur s'il y a un petit problème, qui est responsable.
Alors que l'État britannique a dit, ce sera nous, nous serons responsables.
Comme les Américains. Ils ont dit, on verra plus tard, honnêtement, ce n'est pas le sujet. Ouais. Bon. Et ils ont pris le risque, de, évidemment. Et puis le troisième choix, et c'est celui du pragmatisme le plus concret, parce que vous savez, c'est une affaire d'intendance. Une fois que le vaccin a été découvert, c'est une affaire d'intendance. Où est-ce qu'on le distribue? À combien de personnes? Quelle catégorie? En France, on a probablement fait un peu une cathédrale gothique, un peu intelligente, sophistiquée, mais pas assez de romans. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes un peu spécialistes. Allez, je vais parler un petit peu comme on parle dans les entreprises. Nous sommes spécialistes des process, des procédés, mais pas du point d'arrivée. Alors, les choses vont se corriger, mais au Royaume-Uni, ouais. Ils ont tout mis sur la logistique, dans les églises, partout, et à toute vitesse. On a eu des journées à 800 000 vaccinations ouais. par jour. C'est incroyable. En France, on n'en est pas si loin que ça, puisqu'il y a eu une journée à 400 000. Oui, voilà. Mais il n'y en a qu'une pour l'instant.
Philippe Amouyel, sur la stratégie de vaccination, ils ont aussi, à un moment donné, dit « on fait qu'une dose ».
Oui, alors ça, c'est un choix. Il faut voir un peu, il y a deux moments quand même. Même au moment où ils partaient sur l'immunité collective, où ils en sont revenus, ils ont défini quatre grandes priorités avec Chris Whitty, qui était le chef d'orchestre un peu de cette organisation. C'était bien sûr contenir, retarder et atténuer, mais ils ont aussi dit qu'ils interviendraient sur la recherche scientifique. Et ils l'ont fait dès le départ. Ils ont fait les tests, ils ont fait leurs propres tests, ils ont fait les séquençages. Ce sont eux qui ont séquencé le plus et qui ont identifié le variant britannique. Ils ont fait également ce qui vient d'être décrit sur les vaccins. Et ils l'ont fait avec la même énergie que l'ont fait les Américains et avec les mêmes résultats. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils l'ont vacciné, en certes 30 millions de personnes, mais à une dose. Et l'idée était très bonne parce que quand le 22 décembre, ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir confiner de manière dure, qu'il fallait désengorger les services de réanimation, ils ont fait un pari. Ils ont dit... Une dose permet, lorsqu'au bout de 10 à 15 jours, de réduire de 50% le risque de forme grave. Au niveau où ils en étaient, ils ont tenté, on va utiliser toutes nos doses, on ne va pas réserver la deuxième dose et on va diminuer l'impact sur le système de santé. Et ça a marché. Et donc, aujourd'hui, ils se retrouvent avec 32 millions de personnes vaccinées, mais seulement 10% de personnes avec deux doses. Donc là, il va falloir, alors ils ont un peu de temps, hein, puisque le vaccin AstraZeneca permet de faire la deuxième dose un peu plus tard, mais il va falloir maintenant qu'ils rattrapent peut-être ce retard pour garantir le bénéfice qui va venir.
Et est-ce qu'ils ont, Anne-Elisabeth Moutet, un système de santé plus performant que le nôtre pour mettre en place cette campagne de vaccination, par exemple, pour faire face à l'afflux de patients en réa? Quand vous comparez les deux systèmes de santé.
Alors, il y a tout de même eu tout, spécialement au début, on a observé ce que nous observons maintenant en France, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'occupait plus des autres maladies, y compris des cancers, des traitements, des chimiothérapies. Et donc, le NHS, la Sécu britannique, elle s'est tout de même trouvée absolument près de ses limites. Tout le monde sait que le système de santé britannique, quand il s'agit de cas graves, d'urgence et de recherche, il est absolument à un niveau mondial. Au niveau de les soins pour tout le monde, c'est beaucoup moins confortable qu'en France. On va dire ça comme ça. Il y a des listes d'attente et il y a des erreurs qui viennent de la notion de liste d'attente parce que si on vous dit « Ah, vous avez de l'asthme, on vous verra un médecin dans 8 mois et puis que c'est un cancer ouais. du poumon », c'est ennuyeux. Mais sur ce cas spécifique et dans un cas d'urgence, vraiment tout le monde est allé sur le pont et à ce moment-là, il y a eu cette réactivité. Il y a d'autant plus eu cette réactivité qu'ils sont comme nous noyés dans la bureaucratie et qu'ils ont pu la couper. Et puis qu'il y avait une...
Comment ça, ils ont pu la couper?
Nous sommes en période d'urgence, on verra la bureaucratie après. Mais c'est ce qui s'est passé pendant la première vague dans les hôpitaux en France. Il y a beaucoup de bureaucratie oui. qu'on a coupée. Et puis comme on oblige les gens de recommencer à faire des papiers et des projections financières, ils disent, écoutez, ça suffit, mm-hmm. on en a assez. Ça devrait être une leçon. En tous les cas, en Grande-Bretagne, ils sont allés chercher une personne qui vient de la tech, qui s'appelle Kate Bingham, qui est arrivée pour s'occuper, pour faire toute la stratégie logistique et toute la stratégie de vaccination. On en parlait tout à l'heure, elle est déjà repartie en disant « Ok, le boulot est fait, maintenant on a toutes les structures en place », ce qui est quelque chose de remarquable. Et en France, on avait toutes sortes de gens qui étaient chargés du vaccin, plus un conseil scientifique, plus le président de la République qui décidait d'écouter ou de pas écouter, plus tout ça se passant au conseil de défense, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de notes prises et on n'a pas la moindre idée de comment les décisions depuis un an sont prises le jour où on voudrait examiner ce qui s'est passé. Alors, nous, ça a été à la fois diffus et opaque. Et chez les Britanniques, ça a été rapide, simple et une seule. Il y a une seule que consigne, c'est vacciner, vacciner, vacciner. L'idée de gâcher des doses n'était pas tolérable. L'idée de perdre du temps était absolument pas tolérable. À tel point qu'ils ont dit pas trop de spécialisation, ça fera de la bureaucratie. On vaccine tout le monde.
Tristan de Bourbon-Parme, il y a un conseil scientifique en Grande-Bretagne. Et est-ce que, où en est la relation entre le politique et le scientifique ? On a vu qu'en France, c'était un peu tendu parfois entre notamment le président de la République et le conseil scientifique, puisque le chef de l'État a, on se souvient des dernières décisions qu'il a prises, décidé de ne pas suivre l'avis du conseil scientifique. Est-ce que là aussi, il y a eu une sorte de pas de deux entre les politiques et les médecins ?
Il y a eu un pas de deux au début de la pandémie, en mars dernier, lorsque justement Boris Johnson disait « je vais serrer les mains de tout le monde, ce n'est pas très dangereux, tout va bien ». Là, effectivement, ses conseillers et le conseil scientifique ont dit au contraire « il faut être beaucoup plus dur, il faut fermer ». Et finalement, Boris Johnson a fini par le faire. Depuis, effectivement, il y a parfois de tension en septembre dernier quand le conseil scientifique disait « il faut refermer, ça commence à être sérieux à nouveau les chiffres ». Boris Johnson a hésité, il a écouté son responsable de l'économie qui a dit « il faut absolument rester ouvert pour le bienfait de l'économie britannique, sinon l'économie va plonger ». Et Boris Johnson a suivi son avis et malheureusement, cela l'a obligé à reconfiner en décembre lorsque les chiffres ont à nouveau explosé.
Philippe Amouyel, sur la relation peut-être entre les scientifiques et le politique, d'une manière générale et en particulier en Grande-Bretagne, et sinon sur le système sanitaire britannique.
Alors, sur les scientifiques, il y a eu des relations, et comme le disait fort justement, au début, ça n'a pas bien marché à cause de la volonté de Boris Johnson de faire de l'immunité collective comme la Suède. Mais très rapidement, à partir de la fin du mois de mars, il a entendu les scientifiques. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui est le nec plus ultra de la recherche sur la santé publique mondiale. Donc, ils ont des calibres pour faire ça. Ils ont mis en place les outils, ils ont été écoutés. Ça leur a permis de mettre en évidence le variant britannique. Donc, il y a eu une écoute réelle. Après, il y a toujours des décisions qui sont prises par les politiques et pas par le sanitaire. Et comme on le disait fort justement, septembre, ils auraient pu confiner. Et ils ont eu quand même des problèmes parce qu'en novembre, il y avait une grande liberté de vie à Londres. Et on s'est rendu compte que lorsque le variant britannique est arrivé là-dedans, ça a entraîné la catastrophe qu'on a vue par la suite. Sur le système de santé, je pense que là, on a une différence. Hein. Parce que, en effet, pour le soin courant, pour l'urgence, là, on n'est pas forcément dans la recherche scientifique, on est dans la prise en charge immédiate. On a pu, en France, lors de la première, de la première vague et de la deuxième vague, repousser les murs, mettre en place des outils. Et fort justement, je dois le reconnaître, dans mon CHU, j'ai jamais vécu une période aussi positive que ça, dans la mesure où tout ce qui était décidé d'être mis en place par les médecins, l'administration faisait tout ce qu'elle pouvait pour le mettre en place le plus vite, en moins de 48 heures. J'ai jamais vu ça en 30 ans de médecine, mais ça a réellement marché. Et vous ne pouvez pas savoir ce que je regrette cette situation. pas la pandémie, mais la relation.
Bien sûr, les choses ont un peu changé, on l'a compris. Et juste sur le nombre de places de réa, ils sont mieux fournis que nous en Grande-Bretagne ou est-ce qu'on est à peu près dans la même catégorie ?
Ils sont à peu près dans la même catégorie. Ils ont été saturés plus rapidement que nous. Nous, on a également une plus grande disponibilité avec toutes les déprogrammations qui ont été faites, mais eux ont été saturés beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, probablement à cause de l'influence du variant anglais que l'on est malheureusement en train de connaître aujourd'hui.
Dominique, vous vouliez dire un mot ?
Oui, parce que nous vantons et nous regardons avec admiration ce modèle britannique sur la partie vaccination, mais il y a quand même deux interrogations. La première, elle a été mentionnée par Philippe Amouyel, c'est... le quid de la deuxième dose. C'est-à-dire qu'ils ont une difficulté là. Les Indiens, le Serum Institute indien, dit « Écoutez, nous gardons les doses que nous avions prévues de vous envoyer. » Donc il y a 10 millions de doses qui restent sur le carreau.
Et, avec quel argument ?
Ah bah, c'est
on
le nationalisme indien,
on en a
besoin. Et puis, on sait que maintenant, l'Union européenne dit « Attendez, vous êtes bien gentils, mais les doses, on va d'abord les prendre pour nous. » Donc ils vont avoir une question qui se pose. Donc, quid de la deuxième dose ? Et puis, il y a un second sujet. C'est... que sur le plan de la sécurité sanitaire, est-il possible qu'il n'y ait eu aucune difficulté avec le vaccin AstraZeneca ? Vous savez, on parle beaucoup des fameuses thromboses. On sait que l'Allemagne, cet après-midi, il y a deux heures, à Berlin et à Munich, donc deux États importants, ont décidé de ne plus administrer à partir de maintenant le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ou 60 ans, parce qu'il y a un certain nombre de cas, quelques dizaines et quelques décès en Allemagne. Et on sait qu'en France, la décision a été prise depuis 10 jours. Est-il possible, statistiquement, qu'il n'y ait eu aucun cas de ce type au Royaume-Uni.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Dominique?
Est-ce que le système de pharmacovigilance au Royaume-Uni est absolument top? Est-ce qu'il est nickel à 100%?
Alors peut-être Philippe Amouyel sur cette remarque de Dominique Seux. C'est vrai qu'il y a, il y a énormément de réserves de ce côté-là de la Manche sur ce vaccin, et Boris Johnson s'est fait le promoteur du AstraZeneca en disant « Regardez, nous on est quasiment venus à bout de cette épidémie grâce à ce vaccin ». La question qui est posée par Dominique Seux, c'est est-ce qu'il a été moins regardant que nous le sommes sur d'éventuels effets secondaires du vaccin, Philippe Amouyel?
Non, je ne pense pas, parce qu'ils ont un excellent système de pharmacovigilance. Hein. Ils tracent extrêmement bien avec le NHS et différents systèmes les événements indésirables. Je pense que la seule chose, c'est que c'était une volonté politique de balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, on laisse ouvert les écoles ouvertes parce qu'il y a un bénéfice à les laisser pour les enfants. Eux, ils laissent courir le vaccin AstraZeneca avec lequel ils ont fait plus de 10 millions de vaccinations. Ça leur évite peut-être d'avoir maintenant des doutes et des réticences pour les gens de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Moi, je le verrais plutôt dans ce sens-là, d'accord, c'est-à-dire on fait une balance bénéfice-risque, on considère qu'on a gagné une certaine partie de la bataille, on continue dans cette direction, même s'il y a des cas, mais pour l'instant, leur fréquence est telle que ça ne justifie pas le désamour des Britanniques pour ce vaccin.
Ça veut dire que ça n'a même pas suscité une polémique, des interrogations dans l'opinion publique, dans la classe politique, ce qui s'est passé dans certains pays européens vis-à-vis du AstraZeneca, où la vaccination a été suspendue. Ça a été le cas en France pendant quelques heures.
Les scientifiques, et j'ai parlé à des scientifiques en France sur cette question, m'ont dit que le pourcentage de thrombose par million de vaccins administrés, c'était en dessous de la moyenne connue de risque de thrombose dans la population sans vaccin. Donc, que c'était vraiment... Oui, ça peut arriver, mais c'est très, très peu, et c'était absolument quelque chose qui était acceptable, et les Britanniques l'acceptent. Mais je pense aussi que il y a tout de même eu, quelque part, quelque chose de politique. Je ne peux pas imaginer... Alors, une chose que je voudrais rappeler, c'est que la Grande-Bretagne avait, jusqu'au Brexit, l'agence des médicaments européennes, et que ce n'est pas en 15 jours qu'ils ont perdu les compétences qu'ils avaient sur place. Donc, c'est vraiment un pays qui est absolument à la pointe pour ce genre de choses. Mais il y a eu une espèce d'un dénigrement du vaccin AstraZeneca qui, à mon sens, a été aussi politique. Je n'imagine pas qu'un vaccin purement européen, continental, aurait été attaqué aussi vite, suspendu aussi vite, que le président de la République se serait permis de dire qu'un vaccin ne servait pratiquement à rien après 65 ans, alors qu'on voit bien que ce n'est pas vrai.
C'était Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer. Pour un vaccin qui n'aurait pas été un vaccin britannique. Et j'ai l'impression que, quelque part, on a joué... Là, on a surjoué une blessure narcissique de l'Europe qui n'a pas aimé voir les Britanniques dire « Nous ne vous aimons plus, nous quittons, c'est le Brexit », et que le vaccin AstraZeneca en a payé les frais. Et
ils ne se sont pas que bien comportés non plus.
Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, ce n'est pas eux qui ont commencé. Ils ne se sont pas bien comportés, on peut en parler.
Sur la négociation des contrats, visiblement.
Des contrats, ils les ont bien négociés. Nous les avons mal négociés, et ensuite on dit « c'est pas juste ».
Sur la livraison du nombre de doses.
Il y a des doses qui leur sont garanties d'un laboratoire suédo-britannique. Et maintenant, nous avons l'Union européenne qui nous dit l'Europe livre plus de vaccins que exporte plus de vaccins que la Grande-Bretagne. Mais comme si l'Europe était l'Union européenne, la Bruxelles était une puissance exportante. Vous avez des usines, vous avez des filiales, vous avez des unités de production. Elles font quelque chose pour AstraZeneca. Et de deux choses l'une, où on décide que bon, on réquisitionne tout parce que tout
ça
appartient à l'État ou pas.
Non,
il y a eu une attitude dont je pense qu'elle ne se serait
pas. Il y a de la politique derrière cette polémique.
Si c'était de la politique, ce serait encore quelque chose. Je pense que c'est une attitude qui a presque été une attitude réflexe de dire du mal et de dénigrer quelqu'un parce qu'on ne pouvait pas supporter que les Britanniques avaient un succès à ce moment-là.
Dominique Seux-Hamon.
Bien sûr, il y a une attitude politique, mais les Canadiens ont pris la même décision ces heures-ci sur d'interdire.
Ils n'ont pas ces rapports-là avec la Grande-Bretagne.
Voilà, ils n'ont pas ce rapport-là. Et c'est un vaccin qui n'est toujours pas autorisé aux États-Unis. Évidemment que le rapport global, et vous avez entièrement raison, le rapport global bénéfice-risque est immensément en faveur de la vaccination. Mais quand ça tombe sur vous et qu'il y a un problème, vous n'avez pas tellement envie de regarder les statistiques globales. Et donc, c'est vrai que les autorités sanitaires françaises, allemandes, italiennes, suédoises et autres ont pris une décision. En tout cas, je trouve encore qu'il y a quand même une question sur le système de pharmacovigilance.
Je dois demander l'arbitrage entre vous à Philippe Amouyel. Qu'en pensez-vous sur ce qui vient d'être dit en plateau à l'instant?
Concernant c'est très gênant parce qu'en fait, on a eu la chance incroyable d'avoir des vaccins en moins d'un an. Ouais. Et ces batailles entre eux, est-ce que c'est le vaccin AstraZeneca, le vaccin Sanofi, le Johnson & Johnson avec des colorations nationales, est-ce que ces éléments pourraient expliquer ces problèmes-là face à ce nombre de morts, face aux besoins qu'on a de vacciner? Je vous avoue humblement que moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre un certain nombre de choses par rapport à un certain nombre de décisions. Mmh. Mais là, en particulier sur les vaccins, il n'y a pas de problème sur la balance bénéfice-risque. Bon, les Anglais, ils sont à 125 500 décès. Nous, on est quand même à 96 000 décès. C'est quand même pas loin. On est au niveau des contaminations qu'ils ont atteint au mois de novembre. Donc là, ce qu'il faut, c'est à tout prix vacciner et faire en sorte que les Français aient confiance dans les vaccins qu'on utilise. Alors... Donc, je crois que là, il y a un enjeu. Si vraiment il y a de la nature qui vient d'être décrite par vos deux invités là, je trouve ça réellement dommage pour la santé publique.
Et on en redira un mot parce que le ton est sérieusement monté entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur la question des vaccins. Et peut-être que ça a un lien quand même avec le Brexit. Allez, si le plus fort de la crise sanitaire semble derrière pour les Britanniques, la situation économique, elle, reste fragile. Brexit plus Covid, le Royaume-Uni a connu sa pire récession depuis 300 ans et le gouvernement annonce déjà une mauvaise nouvelle pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, l'augmentation des impôts. Walid Berissou, Lilana Azincote.
Nous l'avions rencontré il y a un peu moins d'un an, près de Liverpool, dans un champ, en train de récolter des asperges.
Il faut attraper la pointe, on tire, et c'est aussi simple que ça.
À 22 ans, Dan venait tout juste d'obtenir son diplôme de pilote de ligne quand la pandémie a cloué tous les avions au sol. Un an plus tard, nous l'avons retrouvé. D'un petit boulot à l'autre, le voici désormais livreur pour un supermarché.
Là, je suis dans ma camionnette, qui est aussi mon bureau pour la journée. Aujourd'hui, j'ai dû effectuer entre 20 et 30 livraisons. Ça n'est pas exactement le boulot que je rêvais de faire, mais bon, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix.
En Grande-Bretagne, près de deux tiers des emplois emportés par la crise concernent un jeune de moins de 25 ans. Le Royaume-Uni, sans doute l'économie du G7 la plus touchée par les conséquences du Covid. En 2020, le pays a connu sa pire récession depuis 300 ans. Et jusqu'à 2 millions de Britanniques pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Malgré la campagne de vaccination massive, malgré l'optimisme de Boris Johnson qui promet une reprise fulgurante, son ministre de l'économie, lui, n'a pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer pour les mois à venir.
Nous allons continuer, quoi qu'il en coûte, à soutenir les ménages britanniques et les entreprises. Mais ensuite, une fois que nous serons sortis de cette crise, nous aurons besoin de restaurer nos finances publiques. Et je veux être honnête avec vous aujourd'hui sur la manière dont nous allons nous y prendre.
Des augmentations d'impôts à l'horizon, pour des perspectives d'autant plus incertaines qu'un autre choc historique pèse lui aussi sur l'économie britannique et vient parfois se manifester juste sous les fenêtres de Westminster. Le carnage du Brexit, comme le dénoncent ce jour-là les pêcheurs et exportateurs de fruits de mer.
La paperasse, les montagnes de papier que nous devons transporter dans le camion, des déclarations de douane aux certificats sanitaires, ça n'est pas possible. Les coûts sont juste astronomiques.
Il faut espérer que le gouvernement interviendra et apportera son aide. L'industrie des produits de la mer va disparaître si elle se retrouve avec une telle quantité de paperasse.
En dépit de l'accord trouvé avec Bruxelles, le Brexit se fait bel et bien sentir dans les rayons des supermarchés et dans les chiffres. Entre la Grande-Bretagne et son premier partenaire commercial, l'Union européenne, les exportations ont chuté de 41% depuis janvier. Les statisticiens britanniques n'avaient tout simplement jamais vu cela.
C'est la plus forte chute en un mois depuis que ces chiffres ont commencé à être mesurés en janvier 1997.
Alors le pays cherche le chemin de sa prospérité ailleurs.
À présent, le Royaume-Uni est de retour en tant que nation commercialement indépendante.
Vers la lointaine Asie plutôt que la voisine européenne. Ces derniers mois, Londres a signé des accords de libre-échange avec le Japon, le Vietnam ou encore Singapour.
Singapour et le Royaume-Uni repousseront les frontières du commerce et le partage de l'innovation. Et la libre entreprise reste la meilleure voie à suivre pour le monde.
Une Grande-Bretagne qui se rêve en championne de la mondialisation. Une Grande-Bretagne globale, comme disent les Brexiteurs. Alors que la City de Londres, elle, l'est de moins en moins. Le secteur financier britannique vient d'être détrôné par Amsterdam. devenue en février dernier la première place européenne d'échange de titres et d'actions.
Et cette question qui nous est posée ce soir, le Brexit a-t-il accéléré la sortie de la crise sanitaire au Royaume-Uni ?
La sortie de la crise sanitaire, oui. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si la Grande-Bretagne, si elle était restée dans l'Union européenne, oui. aurait été accrochée au programme commun d'achat des vaccins rêvé et imaginé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et que ça serait allé beaucoup plus lentement. On peut rentrer dans le détail, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais ça a été bureaucratique, ça a été lent, ça n'a pas été efficace. On a négocié pour des questions de responsabilité, on a négocié le prix sans se rendre compte qu'on négociait pour des centimes au lieu de négocier pour des euros, puisque le coût de la récession est bien plus élevé que le coût des vaccins qu'on achetait. Et le résultat, c'est que, alors que vous avez, je crois, Israël qui est vacciné à 60 ou 65% de la population, la Grande-Bretagne à la moitié, la Hongrie est en train d'arriver à 36 ou 37%, le reste des pays d'Europe, ils sont à 10%, 15% de vaccination. Et moins on est vacciné, plus on a des problèmes.
Philippe Amouyel, avec les compétences qui sont les vôtres, je rappelle, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique. Quand vous regardez ça, vous dites, le fait d'avoir été seul, d'avoir fait le Brexit, ça a donné plus d'agilité à ce pays-là, notamment pour conduire sa politique de vaccination ?
Non, je pense que c'est l'inverse. De toute façon, ils auraient fait ça même s'ils avaient été encore dans l'Europe. Je pense qu'au contraire, cette crise sanitaire a servi le Brexit. Si on regarde à quel moment Boris Johnson a déclenché, ils étaient le confinement, il s'est servi du variant anglais, de la recherche des Anglais en disant il faut confiner. Ensuite, il a dit il faut vacciner. Les Français ont vacciné avec les Européens le 27, lui a donné ses approbations. Avant, ils ont commencé à vacciner le 21, donc à 5 jours près. Et à chaque fois, ils mettaient une emphase là-dessus. Donc je pense que ça a beaucoup plus servi le Brexit que l'inverse.
Tristan de Bourbon-Parme, c'est vendu comme ça, j'ai envie de dire politiquement, par Boris Johnson, l'idée de dire regardez, c'est quelque part la revanche du Brexit, regardez, au final, on s'en sort beaucoup mieux que les Européens. Il le joue ça politiquement ? En politique intérieure ?
Absolument qu'il le joue et il a absolument raison de le faire. D'ailleurs, politiquement, c'est quand même un outil formidable, ce succès. Je voudrais revenir sur un point intéressant qu'on a utilisé tout à l'heure. Boris Johnson a négocié avec AstraZeneca le 18 mai. Ce qui est intéressant, c'est que 4 pays européens, c'est-à-dire la France, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, ont aussi négocié un accord avec AstraZeneca dans les semaines qui ont suivi. Sauf que l'Union européenne est arrivée en leur disant « Attendez les amis, nous, comme nous sommes l'Union européenne, nous devons la jouer collectif. Donc votre accord, vous allez revenir dessus et vous allez attendre que l'ensemble de l'Union européenne négocie. » Et il a fallu attendre 3 mois supplémentaires pour que l'Union européenne, finalement, négocie un accord avec AstraZeneca. Donc officiellement, tous les pays de l'Union européenne auraient pu faire comme le Royaume-Uni, sauf que moralement, ils se sont sentis responsables et ils ont dû suivre l'Union européenne. Donc il est évident que le Brexit a eu un impact, car l'Union européenne n'a pas osé dire aux Britanniques, qui étaient encore liés aux règles européennes, « faites comme nous ». Donc vous me demandiez si Boris Johnson joue là-dessus, évidemment qu'il joue là-dessus, il le répète en permanence, regardez, et il a besoin de ça. Le pays, économiquement, est entre deux eaux. Le pays a besoin d'une histoire magique, entre guillemets, pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure, hors de l'Union européenne. Et c'est une histoire parfaite pour lui.
Parfaite pour lui. Le sujet, c'est de réussir, parce que le défi sanitaire, c'est une chose, on en a parlé depuis le début de l'émission, le défi économique, absolument, c'est maintenant que ça va être compliqué.
Absolument. La question, c'est de savoir si le succès de la vaccination, indubitable, ne cache pas quand même un énorme point d'interrogation qui était là avant et qui est là après, c'est quid du Brexit ? Est-ce que le Brexit est une bonne opération, notamment économique et diplomatique, ou est-ce que finalement c'est un piège dans lequel ils vont s'enfoncer ? Votre reportage, très bon, finissait en rappelant quelque chose de très simple. Première place financière européenne, en fait, ce n'est plus le cas. C'est devenu Amsterdam. C'est un signe. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple Airbus, par exemple PSA, qui vont voir le gouvernement britannique tous les matins en lui disant « Attendez, nous avons des usines là-bas. Si vous ne nous faites pas un énorme chèque, nous partons. » Alors, il y a de la discussion, il y a de la négociation. Mais c'est un pays qui est un peu désindustrialisé. En tout cas, il y a beaucoup... L'automobile, il n'y a pas d'automobile britannique. Il y a Nissan, vous avez PSA, vous avez des constructeurs internationaux qui ont des usines là-bas. La question, c'est de savoir, est-ce que tirant parti de cette vaccination rapide, l'économie britannique va repartir plus vite que les autres. Alors on peut se dire...
Pour l'instant, quand on regarde les chiffres qu'on a vus dans le reportage, une baisse de 41% des exportations des biens britanniques vers l'Union européenne, et quand on parle des biens alimentaires, ça monte à une baisse de 75%.
Mais c'est exactement
si on compare à janvier dernier.
Ça n'est pas gagné du tout. C'est-à-dire que vous avez... les prévisions de la Banque d'Angleterre, c'est plus 4% de croissance cette année. La France est un peu au-dessus. Et le Royaume-Uni est descendu, il est descendu de 10%, 9,9% l'année dernière. C'est plus que la France, évidemment que l'Allemagne ou que l'Espagne. Et donc, il va falloir remonter sur le cheval et ça n'est pas simplement une campagne de vaccination, fut-elle excellentissime, qui va corriger tous les handicaps du Brexit.
Plus vite.
Ils vont gagner effectivement 3-4 mois. Ils vont gagner 3-4 mois, mais derrière, avec qui commerce-t-on? Avec qui négocie-t-on? Que vend-on à qui? Ce sont des questions qui restent entières.
Il y a un plan de relance?
Alors non,
Là, pour le coup, c'est vrai que les Européens, ça n'a peut-être pas très bien marché sur le plan de la vaccination. En revanche, sur la question du plan de relance, on a mis des milliards d'euros, plus de 700, sur la table.
C'est une des interrogations pour l'instant, c'est que le Royaume-Uni a dépensé beaucoup d'argent en pare-feu ou en airbag, le chômage partiel. Toute l'Europe a fait à peu près la même chose, le chômage partiel. Mais il n'y a pas de plan de relance à proprement parler. On imagine qu'il va arriver. Il y a 20 milliards, je crois, sur la transition écologique. Bon, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas un paquet absolument immense. C'est la grande différence avec ce qui s'était fait en 2008, par exemple. À l'époque, le Premier ministre, le gouvernement britannique avait lancé un plan de relance assez massif et il avait été leader en Europe à ce moment-là.
Ouais.
Et aujourd'hui, en fait, on ne voit pas ça. Alors peut-être qu'il traite les sujets les uns après les autres, mais les Britanniques restent convaincus qu'il faut aussi redresser les comptes publics.
Ouais. Donc, ils vont augmenter les impôts.
Et ils augmentent notamment l'impôt sur les sociétés.
Oui.
Alors c'est à la fois, vous pouvez vous dire, ah ben ça c'est quand même une vision positive des choses dans la mesure où ça veut dire qu'ils se projettent dans l'après, mais vous vous dites, mais attendez, l'économie elle va redémarrer comment?
Juste sur le plan de relance européen, on a récupéré l'argent?
Non, rien pour l'instant, mais non.
Bon, allez, Anne-Elisabeth Moutet.
Justement, oui, on a un plan de relance européen, ça a pris beaucoup de temps pour le faire voter, c'est un budget de 7 ans et on a fait du chantage aux Polonais et aux Hongrois sur des questions différentes en profitant du fait qu'ils avaient, comme tout le monde, besoin de l'argent. Je voudrais rappeler le fameux plan Juncker, qui était un plan d'investissement dans l'infrastructure après la crise de 2008. Et c'est un plan qu'on a énormément annoncé et finalement, c'est un plan qui est allé à quelques grosses sociétés et qui n'est pas terminé parce que, encore une fois, la bureaucratie a arrêté un nombre de choses extraordinaires. Il était impossible pour une petite entreprise de prétendre à soumissionner pour ce plan tellement c'était compliqué et lourd.
Mais les Britanniques ont-ils un plan de relance?
Alors, les Britanniques vont certainement avoir un plan de relance, ça c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est que c'est maintenant qu'il faut annoncer les choses difficiles parce que plus tard, c'est trop dur pour les faire accepter. Mais il faut aussi
savoir... C'est pour ça qu'ils ont annoncé les hausses d'impôts.
Oui, par exemple. Il faut aussi savoir que les hausses d'impôts, ça veut dire que ça monte à 25%. C'est tout de même plus bas qu'en France encore. Mm-hmm. C'est nettement plus avantageux d'avoir une entreprise en Grande-Bretagne qu'en France. Mais surtout, moi, je me souviens très bien de plusieurs crises économiques, celle de 91 et celle-ci. Et la France a beaucoup de systèmes sociaux qui font qu'il y a de l'amortissage, ce qui fait que on s'en tire mieux, mais ensuite, on a du mal à repartir. Les Britanniques ou les Américains, ils s'en prennent plein la figure, mais ensuite, ils repartent beaucoup plus vite que nous. Et donc, le cycle économique est différent.
Philippe Amouyel, juste un mot avant d'aller au troisième reportage. Est-ce qu'on peut considérer, quand on regarde à plat les chiffres de l'épidémie en Grande-Bretagne, qu'ils sont, entre guillemets, sortis d'affaires?
Alors oui, pour le moment, ils sont sortis d'affaires. Maintenant, il faut voir s'ils vont pouvoir faire la deuxième dose, s'il ne va pas y avoir d'échappement. Voilà, on se pose encore des questions. Ils sont comme Israël, et Israël se pose d'autres questions, en particulier s'il ne faut pas vacciner les enfants. Donc, ils ont une longueur d'avance sur la France, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des problèmes post-vaccination qui signe quand même la sortie de crise largement.
Alors, c'est un rapport que tout le monde attendait, celui des enquêteurs de l'OMS qui se sont rendus à Wuhan pour chercher l'origine de cette pandémie. Une expédition sous surveillance, naturellement, des autorités chinoises et un manque insuffisant de données dénoncé aujourd'hui assez fortement par le patron de l'OMS, l'Assogé Labert, Nicolas Baudry-Dassault.
Premier coup de tonnerre du patron de l'OMS à la conférence de presse sur l'origine du Covid-19. Tedros Ghebreyesus déclare douter de la fiabilité des données et réclame une enquête sur une éventuelle fuite du virus d'un laboratoire chinois. Autant dire que la présentation du rapport sur les origines de la pandémie s'en est trouvée perturbée. Lors de son exposé, le chef de la mission a joué la carte de la prudence.
Une des pistes envisagées est celle d'un hôte intermédiaire, c'est-à-dire que le virus a d'abord pu contaminer un animal adapté à l'environnement du premier animal contaminé, et s'est ensuite propagé chez les humains. On étudie aussi la possibilité de viande ou d'aliments congelés ou de produits contaminés permettant au virus de se propager depuis Wuhan jusqu'à d'autres endroits.
Sans grande surprise, la piste privilégiée par les experts est celle de la transmission du virus à l'homme, probablement par la chauve-souris, via un animal encore non identifié. Le rapport pointe plusieurs suspects. Le pangolin, le lapin ou encore le blaireau furet. La conclusion de 4 semaines d'enquête, menée par une équipe d'experts scientifiques dépêchés en début d'année à Wuhan, la ville chinoise considérée comme l'épicentre de la pandémie. Des chercheurs encadrés sous surveillance, bref, sous la pression de Pékin, les résultats avant même leur publication sont jugés encore insuffisants.
Toutes les hypothèses sont sur la table et nécessitent d'ailleurs des études plus complètes à partir des informations que nous possédons déjà.
Mais l'origine du virus pourrait-elle remonter à bien avant l'épidémie de Wuhan ? C'est ce que suggère une étude de l'INSERM, réalisée en France. Sur 9000 échantillons sanguins effectués entre novembre 2019 et janvier 2020, 13 sont testés positifs au coronavirus. Un des patients français contaminés avant l'épidémie mondiale témoigne.
C'était une toux très très sèche. Et très longue, en fait. C'est des quintes de toux qui duraient 20-30 secondes, qui étaient répétées dans la journée. J'avais l'impression de cracher mes poumons tellement c'était violent. Et en fait, c'était la première fois que je toussais comme ça. C'était marquant, c'était troublant, à tel point que je me suis dit, j'espère que j'ai rien de grave. Si ça continue, va bien falloir que j'aille voir un médecin. Puis au bout d'une semaine, 5-6 jours, c'est passé.
Plus troublant encore, lors des Jeux mondiaux militaires de Wuhan en octobre 2019, plusieurs athlètes rapportent avoir souffert de symptômes semblables à ceux du Covid-19. Un nageur luxembourgeois racontait alors que deux de ses coéquipiers étaient tombés malades.
Si c'est une coïncidence, je ne sais pas. Ils sont devenus malades là-bas. Il y en a eu deux nageurs qui n'ont pas pu nager, qui ont eu des problèmes. Ils étaient grippés, ils étaient au lit, fièvre, mais ils n'ont pas toussé. Et quand on est revenu, c'était bon de nouveau. Donc ça a duré une semaine.
La recherche de l'origine du Covid-19 devrait se poursuivre. Les experts scientifiques vont étendre leur enquête à d'autres zones chinoises, mais également à d'autres pays. Bref, le mystère reste entier.
Philippe Amouyel, vous en attendiez quelque chose de ce rapport ?
Il fallait de toute façon qu'il y ait une commission qui aille en Chine. Ce n'était pas pensable d'envisager une recherche des origines sans envoyer une équipe de spécialistes. Le problème, c'est qu'on n'est pas persuadé que la Chine ait joué complètement le jeu de la transparence, ne serait-ce que sur les chiffres des patients qui étaient touchés, qui étaient affectés, ni sur le démarrage des cas. Rappelez-vous ce médecin qui commençait sur les réseaux sociaux à nous annoncer ça en décembre, alors que c'était le blackout complet. L'autre élément, c'est qu'il y a eu des cas, et il se trouve par hasard que dans une consultation à Lille, on en a trouvé un qui était passé par l'Italie au mois de novembre, à un moment d'une grande fête du vêtement, une grande foire aux vêtements, et qui s'est révélé par la suite être positif, qui pouvait être un des premiers cas européens dans ce contexte-là. Donc je pense qu'il faut bien sûr regarder la Chine, voir les mécanismes, ouais. Mais également voir les autres pays, parce que le virus préexistait peut-être de manière épidémique et qu'il s'est répandu. Maintenant, il y a toujours l'hypothèse de la sortie du laboratoire P4 de Wuhan.
Ah, quand
mais,
même.
Voilà, fabriquer un virus comme ça, c'est quand même compliqué.
C'est quand même le point un petit peu compliqué à saisir, Dominique. On a un rapport de l'OMS qui nous dit que c'est hautement improbable qu'il soit issu du laboratoire. Et aujourd'hui, on a le patron de l'OMS qui fait une conférence de presse pour réclamer une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois.
Je ne sais
que
pas
faut-il comprendre ?
Ben, je ne sais pas du tout quelle est la vérité scientifique, mais ce qui saute aux yeux quand même, c'est que l'OMS est une instance politique et qui a commis un rapport politique, plus ou moins sous-écrit. On a tous suivi les difficultés de la mission d'enquête en gros, ne pas avoir d'informations, ouais. Attendre dans un hôtel pendant 3 semaines, se voir dicter quasiment ce qu'elle a écrit. Ça n'est pas du tout à l'honneur d'un organisme international que l'OMS, dont on sait que le directeur général a quand même été nommé dans des conditions très particulières. Ça a été expliqué maintes et maintes fois sur ce plateau. Et donc, je trouve que c'est C'est probablement, et je ne me prononce pas sur le plan scientifique, c'est assez honteux ce qui est en train de, ce que nous avons sous les yeux. Alors, derrière, il y a de la diplomatie. J'ai vu qu'un très proche de Joe Biden, cette nuit, a écrit un tweet pour dire que ce rapport était tout à fait indécent. Et donc, c'est une bataille politique. Les États-Unis qui viennent de rentrer à nouveau dans l'OMS et donc qui aimeraient peut-être que ça se passe un peu différemment.
Et Mike Pompeo, l'ex-secrétaire d'État de Donald Trump, a dénoncé, lui, une mascarade quant à l'Europe. Elle explique qu'il faut d'autres investigations qui restent nécessaires. Tristan de Bourbon-Parme, vous avez été correspondant dans une autre vie en Chine. Ce n'est pas une surprise pour vous que cette enquête-là soit sous surveillance et accouche d'un rapport, au fond, qui ne satisfait personne, en tout cas pas tous ceux qui attendaient une part de vérité.
Absolument. Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 2012, a durci le pays, a refermé le pays. L'objectif est que la Chine ne donne pas de mauvaises nouvelles, ne donne pas de mauvaises images. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous les médecins qui ont parlé du virus au mois de décembre ont disparu ou sont morts. Il y a une répression, la ville de Wuhan a été fermée, il y a une répression dans la ville de Wuhan. Il sera, à mon avis, extrêmement difficile de connaître un jour la vérité, car il ne faut pas pour la Chine qu'une mauvaise image soit donnée d'elle-même. Pour son image à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, puisque la Chine a énormément d'ambitions internationales.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Faudra-t-il partir au Royaume-Uni pendant l'été pour boire une bière en terrasse ou aller au restaurant ? Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que c'est ce que vous avez prévu ?
Alors, je prévoirai ça quand je saurai si la France est classée en zone rouge par les Britanniques.
Ce n'est pas encore le cas ?
Ils sont en train de le faire. Ouais. Et donc, on ne sait pas quand on va pouvoir y retourner de nouveau. Moi, je n'y ai pas mis les pieds depuis un an. Il y a plein de gens que j'aimerais bien voir. Et une bière. Mais ça sera très bien. Mais comme ils ont peur de nous parce qu'on n'en est pas là où ils en sont, je ne sais pas dans quelles conditions on va pouvoir y aller. J'ajoute, ça vaut le coup de prévenir les gens qu'il y a des tests obligatoires qui étaient demandés. Mais avant même les questions de quarantaine, il y avait des tests obligatoires qui étaient demandés aux gens qui voulaient monter dans l'Eurostar, que ces tests ne pouvaient être faits que dans des boîtes privées, que ça coûtait entre 80 et 200 livres, et que donc vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en voyage si vous essayez d'aller en Grande-Bretagne.
Philippe Amouyel, cet été, on sera tous au même point.
Qu'est-ce que vous appelez tous au même point ?
C'est-à-dire avec la majorité des adultes vaccinés, et avec une réouverture, une campagne de vaccination qui aura peut-être rattrapé son retard, on va le dire comme ça.
Il faut l'espérer, il faut voir aussi l'arrivée à partir de juin d'un pass sanitaire européen. Il y a tous ces éléments-là, je crois qu'en effet, il faut espérer dans cette période de l'été de cette réouverture pour pouvoir tenir dans les semaines qui viennent les moments difficiles que va devoir passer la France.
Les Britanniques sont sur la bonne voie, mais comment expliquer le très grand nombre de morts dans leur pays ? Toujours pour vous, Philippe Amouyel.
Simplement parce qu'ils ont commencé en essayant d'avoir une immunité collective. Et à un moment, Boris Johnson avait lui aussi assumé cette politique en disant « ça nous coûtera à peu près 500 000 morts ». Heureusement, dès le 25 mars, il s'est arrêté sous la pression, sous différents axes, mais ils ont démarré extrêmement fort dans ce contexte. Le deuxième élément, c'est quand ils ont raté, grosso modo, leur deuxième confinement de septembre, où là, ils ont encore laissé filer l'épidémie.
Et il a été malade lui-même.
Oui,
et donc
sûr.
Ça a pu changer totalement son regard.
C'est à partir
regard,
de là, d'ailleurs, il y a eu un point de bascule.
Il y avait deux comités scientifiques. Il y en avait un qui était à Imperial College, qui est un petit peu l'équivalent de Polytechnique, à Londres, et puis il y avait celui d'Oxford. Imperial College était pour l'immunité de groupe, et Oxford était pour le traitement que nous avons tous suivi ensuite avec des confinements. Et il y avait quelque chose d'optimiste, si on laisse tomber le nombre de morts dans Imperial College, où on se dit, mais finalement, peut-être que ça peut marcher, les Suédois ont fait ça. Et on s'est bien rendu compte que malheureusement, bon, c'était pas super.
Quelles sont actuellement les mesures de restriction au Royaume-Uni ? Est-il prévu de les lever prochainement ? Alors Tristan de Bourbon-Parme, le confinement, il a été extrêmement sévère.
Effectivement, en dehors du fait qu'on n'est pas obligé ici de sortir avec un masque dans la rue, il était interdit pour les gens d'aller chez les autres. Évidemment, tous les restaurants sont fermés, tous les pubs aussi, on en a assez parlé déjà. Mais effectivement, la levée est très progressive. Donc, depuis hier, on peut aller dans les parcs à 6 ou à 2 foyers. À partir du 12 avril, les pubs vont réouvrir et les restaurants pour servir en extérieur. Ça va s'ouvrir petit à petit jusqu'au 21 juin où c'est la liberté, comme le dit
Boris Johnson. Pas les voyages internationaux.
Mais voilà, les voyages internationaux, une décision sera prise lors des semaines à venir. Jusqu'à maintenant, ils sont interdits jusqu'à fin juin.
Ce qui est magnifique, c'est ce calendrier. Vu d'ici, pardonnez-moi, je vous coupe. Voilà. Ce qui est magnifique, c'est ce calendrier. C'est-à-dire, On est en train, nous, de se poser la question, de se dire comment ça va se passer cet été. Alors, peut-être vont-ils parvenir à tenir ce calendrier, peut-être pas. Mais en tout cas, ça donne des perspectives.
Mais Caroline Roux, on se demande comment ça va se passer d'ici cet été, mais on se demande surtout qu'est-ce qui sera annoncé demain soir.
Oui, c'est pas
et
faux.
Donc, on est déjà dans cette incertitude totale, dans ce flou. Ouais. Et c'est vrai qu'un calendrier 12 avril, 21 mai, 21 juin, c'est vrai que ça donne de l'espoir. Non, ce qui est frappant dans leur calendrier, c'est qu'ils sont prudents, y compris avec une vaccination massive. Ils restent quand même, ils vont ouvrir très lentement et très prudemment.
On précise que la France a maintenu ses écoles ouvertes, ce qui n'a pas été le cas de la Grande-Bretagne, puisque les établissements ont été fermés. Je disais tout à l'heure, c'est un confinement très strict. Quelle est la cote de popularité de Boris Johnson ? Anne-Elisabeth.
Elle a remonté, elle avait baissé. Et elle a remonté, je pense que Tristan doit avoir les chiffres plus précisément que moi, mais il est absolument évident que ça l'a servi, ça c'est sûr.
Tristan de Bourbon-Parme, les chiffres.
Absolument. Il est aujourd'hui très positivement vu par les Britanniques. Il est effectivement baissé en dessous de son adversaire travailliste, Keir Starmer. Aujourd'hui, il est largement en avance et le Parti conservateur est très largement en avance dans les sondages, ce qui est important parce que dans un mois, nous avons des élections locales, notamment l'élection de la mairie de Londres. Et donc, le Parti conservateur veut absolument réussir ces élections. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les Britanniques, ce succès est le succès de Boris Johnson et le succès du Parti conservateur.
La différence entre les pays anglo-saxons et l'Europe ne tient-elle pas en un mot ? L'audace.
Audace, pragmatisme, certaines prises de risques, on l'a dit tout au long de l'émission, et le souci de la logistique. Vous savez, quand les Américains et les Britanniques ont débarqué le 6 juin 1944, ils ne pensaient pas simplement à ce qu'on appelle la première vague, mais aussi à construire un port qu'ils ont amené à Romanche. Et donc, ils pensaient déjà à la suite. Nous sommes excellents en théorie, parfois en pratique. On a des entreprises magnifiques dans beaucoup de domaines, bien évidemment. Mais les Anglo-Saxons, d'une manière générale, montrent que quand il faut, ils peuvent.
En quoi la stratégie vaccinale du Royaume-Uni diffère-t-elle de celle de la France ? Avec vous, Philippe Amouyel.
Très simplement, c'est que le 22 décembre, ils ont commencé à vacciner massivement tout le monde sans nécessairement de plan particulier. Et que nous, le 27 décembre, on a commencé par vacciner Morissette. On a essayé de dire qu'il fallait vacciner tout le monde. Alors heureusement, on a vacciné les personnes dans les EHPAD. Mais voilà quoi. Rappelez-vous les discussions de janvier avec le gouvernement sur « Ah non, non, il ne faut pas… » Voilà. Donc c'est ça la grande différence. Et maintenant, on a pris un certain retard dans cette organisation. On essaie de rattraper, mais on a du retard sur les doses, du retard sur l'installation des centres. Rappelez-vous, on ne voulait pas de vaccinodrome.
Oui.
Donc voilà.
Il y en a eu des vaccinodromes d'ailleurs en Grande-Bretagne ?
Oui, un peu partout. Alors, ils n'appellent pas ça des vaccinodromes, mais quand ils utilisent des églises, quand ils utilisent des lieux pour le faire, oui, c'est excellent.
Et un mot quand même, on salue Morissette, mais est-ce qu'il y a eu la volonté des Britanniques de faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire quand même au début de cibler des publics prioritaires, ou est-ce que tout le monde y avait droit dès le début ?
Non, ils l'ont fait tout de suite parce que c'était leur objectif de réduire les charges des réanimations. Les réanimations étaient chargées, comme en France, par les personnes vulnérables. Donc, ils ont vacciné d'abord ces personnes, les personnes âgées. Mais ils n'ont pas hésité quand même à vacciner tous ceux qui voulaient bien à un moment se faire vacciner parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on allait perdre des doses parce que c'est compliqué sur la logistique. Donc, il y a eu cet enjeu de vaccination massive dès le départ, même s'il y avait des grandes allées directrices, ce qu'on aurait pu tout à fait faire en France.
Très bonne question. Y avait-il et y a-t-il des vaccino-sceptiques au Royaume-Uni ? Parce que nous, si on est allé de manière si prudente au début, c'est qu'on avait besoin de susciter de l'adhésion de la part des Français sur la vaccination.
Alors, il y a moins de vaccino-sceptiques dès le départ en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, on mesure des gens qui, avant le Covid, s'inquiétaient sur les vaccins, de la rougeole, enfin, des choses qui existent. Et chez nous, on en a tout de même un peu plus. Mais il faut tout de même observer qu'en France, le nombre... Il y avait des vaccinos... Il faudrait comparer avec les Israéliens. Il y avait des vaccino-sceptiques en Israël, et en particulier dans les communautés religieuses, que ce soit les Arabes ou les Juifs. Et les Israéliens, au lieu de se dire « Ah bah, on va pas y aller trop vite », parce que ce que j'ai entendu dire la directrice de l'INSERM, de recherche de l'INSERM qui s'occupait de ça, Marie-Paul Kenny, qui disait les Anglais vont être nos cobayes et nous, on va vacciner très lentement et comme ça, on verra s'il y a des effets secondaires. Alors ça, c'était vraiment...
C'est vrai qu'on s'est dit ça.
C'est ce qu'on a fait.
Mmh. Allez-y.
C'est ce qu'on a fait. Elle m'a annoncé ça le 2 décembre et on était en débat ailleurs et c'est ce qui s'est passé. Mais les Israéliens, ils ont dit on va vacciner tout le monde et quand les gens qui ont peur du vaccin verront les queues, ils en voudront. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé.
À quand un calendrier de retour à la vie normale en France ? Je sens venir un report de mon mariage pourtant prévu en octobre. Héloïse, à Paris.
Écoutez, bon. je pense que l'été prochain, les choses vont quand même être beaucoup plus faciles, notamment pour les plus de 40, 45 ans.
Donc, Héloïse, maintenez votre mariage.
Au mois d'octobre, au mois d'octobre, aucun doute.
Allez, on est invité.
Dans mon entourage proche, il y a quelqu'un qui se marie au mois de juillet, j'ai beaucoup d'optimisme aussi.
On y sera aussi. Allez, cette émission sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain à 17h50. N'oubliez pas, c'est dans l'air, c'est aussi en replay et en podcast. Tout de suite, c'est à vous.